Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. À vous tous, déjà coincés dans les embouteillages des retours de week-end, alors que vous vous étiez dit, si on part juste après le déjeuner, ça devrait passer. Oui, à vous tous, y compris ceux ou celles assis à la place du mort, dont nous célébrons la mémoire en ce jour de Toussaint, j'adresse un amical salut. Et puisque vous nous faites la faveur de nous écouter, plutôt qu'un podcast sur un des sujets brûlants du moment, comme nazisme et dialogue par exemple, je vous promets que vous ne serez pas déçus de ce voyage immobile. Direction l'Afrique du Sud, en compagnie de nos deux invités, Caryl Ferret et Corentin Rouge, auteurs d'une BD dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle dépote plus que n'importe quelle aventure de Martine, notamment Martine à la fête des fleurs. Je ne vous conseille donc pas d'accrocher vos ceintures, j'espère que c'est déjà fait, mais de vous accrocher tout court, car on parle ici de ce genre d'aventure qui secoue le lecteur adulte, comme le firent les mousquetaires avec le lecteur adolescent que nous fûmes et continuons à être, même si nous avons cessé de fumée. Mais si, un pour tous, tous pour un, la Toussaint, jour férié. Mais d'ailleurs, cette émission s'appelle Férié, non, Ferré, comme Caryl. Allez, pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Aujourd'hui, nous sommes les invités de Antoine de Caunes et nous
sommes d'Agen, ce qui n'était pas du tout le cas ce week-end à Saint-Malo.
Oui, c'est vrai. Ça va mieux aujourd'hui.
Alors, ce week-end, c'était donc le festival Quai des Bulles. Saint-Malo, si je ne m'abuse.
Oui.
Et des bulles, il y en avait partout, si je comprends bien.
C'est ça.
On souffle dans le ballon, qu'est-ce qu'on fait?
Non, on est breton, donc on infuse.
On est breton, donc on infuse. Bonjour, Caryl Ferret.
Bonjour.
Bonjour, Corentin Rouge.
Bonjour.
Vous êtes breton?
Vous êtes normand, adopté, mais moi je suis le droit du sol.
Oh, oui, d'accord, mais enfin, plus, vous êtes de l'Ouest, quoi.
Oui.
De l'Ouest au sens large. Bon, bienvenue dans cette émission, et c'est très gentil de m'avoir apporté des chrysanthèmes. Qu'est-ce que je dois en déduire? Quand on apporte des chrysanthèmes le jour de la Toussaint,
c'est qu'on va mourir.
Mais non, c'est que normalement je suis mort et que vous venez me rendre visite. Oh, mais pourquoi m'avez-vous apporté des chrysanthèmes comme ça? Enfin, je suis superstitieux, moi. Avec vous, nous allons parler de Sangoma, les damnés de Cape Town. C'est une BD que vous avez écrite, Caryl, et que vous avez dessinée, Corentin, qui arrive mercredi aux éditions Glénat. On est à 48 heures de l'arrivée dans les librairies. Pas trop stressé?
Non.
Vous êtes encore totalement amorti par le week-end de Quai des Bulles.
C'est plutôt excitant, en fait.
C'est plutôt excitant. Ce qui est stressant, c'est de demander si on n'est pas stressé. Moi, à chaque fois qu'on me demande si je suis pas stressé, ça me stresse.
Peut-être.
Oui, on n'y pensait pas.
Je sens que vous êtes bien. Bon, d'accord. Alors, merci en tous les cas d'être avec nous en direct, en ce jour férié. Et ça ne vous gêne pas, enfin, je veux dire, ça ne vous impressionne pas de vous retrouver face à moi, enfin... face au parrain du prix BD FNAC France Inter.
Ah, j'étais pas au courant, en fait.
Non, moi non plus, ils viennent de me demander. Ça vous impressionne un peu ou pas?
Non. Non, pas trop, non.
Non, pas du tout. Corentin non plus, s'en fout complètement.
Non, un peu.
Un petit peu impressionné. Tenez, embrassez-moi l'anneau si vous le voulez. Voilà. Et avec nous également tout à l'heure, le musicien H. Burns.
You wish to come.
Edge Burns qui sera en live sur la scène de Pop pour nous interpréter un extrait de Burns on the Wire, son dernier album, un album de reprise de Leonard Cohen. Ça, ce sera pour la fin de l'émission. Messieurs, votre BD est mucho caliente. Je vous propose donc un morceau chaud bouillant en ouverture de cette émission. C'est un vieux James Brown. It's too funky in here. Tout de suite, ok?
Too funky in here.
James Brown, It's Too Funky In Here, un morceau qui me fait penser à mes invités Karine Ferret et Corentin Rouge, venus nous présenter la BD Sangoma, Les Damnés de Cape Town, édité chez Glénat, qui arrive mercredi dans les librairies et dont nous allons parler dans un instant avec Charline Roux. Vous avez travaillé en écoutant quoi d'ailleurs? Parce que je sais que Karine écoute beaucoup de rock, hein, en écrivant.
Oui, ça donne le ton.
Et puis un rock un peu puissant, quoi. On peut écouter
pas de la pop, du
rock fort en écrivant.
Voilà.
Oui. Oui. On peut donc écrire en regardant, en écoutant un fromage.
Bien.
C'est ce que
vous êtes
en train de dire. Ça donne le rythme, dites-vous. On écrit, par exemple, on écrit différemment si on écoute Clash ou Franck Michael. C'est pas le même.
Alors, je sais à peine qui est Franck Michael, mais je pense que j'écoute pas.
Chanteur pour des vieilles dames. Voilà. Très respectable.
Bah, peut-être à la fin de ma vie, quand j'aurai plus rien à dire. Mmh.
Donc, du rock. Et vous, mon cher Corentin, qu'avez-vous écouté si vous écoutez de la musique?
J'en écoute, ça dépend des phases de travail. Quand on conçoit la page ou quand on dessine, qu'on met tout en place, c'est le silence, ça reste le mieux pour moi. Par contre, après, une fois que tout est bien posé, ou qu'on met la couleur, ou qu'on finit l'ancrage, j'écoute pas mal de musique brésilienne. C'est un peu mon reste de mes aventures et de mes albums précédents. Et puis, sinon, la musique classique, mais des choses assez calmes, quand même, parce que moi, ça me stimule pas le dessin. Ça peut venir phagocyter un peu le trait, la rythmique du dessin. Mais
et Dieu sait si l'énergie, il y en a dans votre dessin. Enfin bon, vous êtes tout à fait complémentaires. Vous étiez faits pour travailler ensemble. C'est bien ce que j'ai compris.
Oui.
D'accord. Alors, l'action de cet album se déroule en Afrique du Sud, une vingtaine d'années après l'apartheid. Et quand on pense à cette période et à la musique, on pense à I Want to Break Free de Queen. C'est une musique que les Sud-Africains se sont appropriée pour protester contre l'apartheid. Mandela Day des Simple Minds, E, I Believe de Whitney Houston ou encore ce morceau. Ça, c'était Free Nelson Mandela des Specials, c'était en 84. À votre avis, à tous les deux, je ne sais pas si vous êtes penchés sur la question, mais quel est le titre le plus représentatif de cette époque-là? Entre les Specials, entre Queen...
Moi, je me souviens surtout de Johnny Clegg, en fait.
Ouais.
Et peut-être parce qu'il était sud-africain, et peut-être parce que le Zoulou blanc, c'est peut-être un peu ethnocentrique, je sais pas.
Si Bononga.
Oui.
Assieds-toi, Bononga. Vous, Corentin, vous n'étiez pas né.
Oui, non, je...
Vous allez me faire le coup de...
Là, j'ai pas,
cette époque-là. Non, mais ça résonne vaguement.
C'est celle qu'on vient d'entendre, oui. Celle-là...
Bon, alors on va opter pour les spéciaux.
Et Bico de Peter Gabriel.
Bico de Peter Gabriel, évidemment. On se souvient tous de ce grand concert à Sun City. Avec Springsteen, il y avait Springsteen dans l'affaire, il y avait Peter Gabriel, il y avait Jim Kerr des Simple Minds, il y avait tout. Bon. Mais revenons au présent. Cet album, vous l'avez conçu pendant le confinement, c'est une période qui résonnait avec sexe, bon vin, rock'n'roll et écriture, dites-vous, Karine Ferret. Vous espérez donc ardemment un nouveau confinement, si je comprends bien.
En fait, quand on écrit, on est toujours plus ou moins confiné. Parce que toute la journée, je suis confiné.
Ça, c'est ce que disent les dessinateurs, généralement.
Oui.
Ouais, mais nous, ça nous a pas trop impacté, quoi. C'est dommage pour les autres gens. Mm-hmm. Hein, on était bien conscients quand même de ça.
Oui, qu'il y a eu des effets collatéraux.
Mm-hmm. Mais pour nous, ça changeait pas. Après, à 7h, c'était l'heure de l'apéro. On était moins nombreux, mais ça changeait pas grand chose.
Mm-hmm. Et voilà l'apéro qui revient. Pour vous, Corentin Rouge, cette période résonnait plus avec Girbouille, Tétine et Peppa Pig, parce que vous étiez avec votre fils de 18 mois. Vous n'espérez donc pas un nouveau confinement, vous?
Non.
Contrairement à Carrie.
C'était assez difficile. Enfin, c'était très curieux parce que je déployais une énergie énorme pour avancer avec la petite famille autour.
Ouais.
Et puis, je me rendais compte que ça avançait beaucoup moins vite. Donc, j'ai mis un mois à comprendre ce qui se passait. Mais voilà.
Alors ici, messieurs, vous le savez, nous parlons de pop culture. Nous parlerons tout à l'heure de vos goûts pop. Mais vous nous avez dit, Karine Ferret, ne plus regarder de séries, de les boycotter même, parce que c'est trop chronophage et ça vous rappelle le confinement. Même pas un petit Joséphine Ange Gardien derrière les fagots?
Alors, ça, encore moins. J'ai pas de télé non plus. Et...
Ah, c'est une bonne raison.
Ah bah, ça fait très longtemps. Mais le fait de boycotter les séries, c'est aussi pouvoir aller au cinéma et faire autre chose.
Pourtant, vous avez appelé votre fille Emma, en référence à Emma Peel de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Comment se serait-elle appelée si elle était née pendant un de ces confinements? Vous pouvez pas le savoir puisque vous n'avez pas de télé.
Non.
Bah oui. La question du coup tombe à l'eau. Et vous appelez en revanche Caril, en référence à Caril Chessman.
Ouais, c'est pas.
C'est vrai ça.
Ouais, c'est un condamné à mort. Donc mes enfants, mes parents m'ont condamné à mort.
Condamné à mort en 1960, une affaire. Alors une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, mais qui est devenu, grâce à Shane Stevens, un grand auteur de polar, un personnage aussi de fiction presque, avec ce livre Au-delà du mal. Finalement, que vous soyez à votre tour un auteur, non pas de polar, mais de thriller. Enfin, je ne sais pas quelle étiquette on met. Ça boucle la boucle.
Bah ouais, alors que j'étais gentil quand j'étais petit. J'étais blond.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, j'étais plutôt en mode Dave, moi. J'avais les cheveux longs, j'étais gentil, quoi.
Mm-hmm.
Et puis, je sais pas. Non, mais je crois que c'est le rock. À un moment, je me suis dit, écoute, il faut que tu sois un homme. Faut que t'arrêtes.
Attendez, vous êtes en train de dire que le rock vous a rendu méchant, Caryl Ferré.
Ouais, carrément.
Vous étiez un gentil petit Dave.
Voilà.
Et vous êtes devenu un méchant Joey Ramone.
J'étais un peu naïf et j'avais besoin d'être un peu secoué.
Corentin, vous dites que pendant cette période de confinement, je vous cite, hein, le temps s'est un peu suspendu, ce qui se passe intérieurement quand on dessine, c'est aussi passé à l'extérieur pour les autres. C'est curieux. Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu cette idée qui est encore un petit peu floue pour moi?
Oui, mais je ne sais pas où vous avez trouvé cette phrase, mais c'est vrai.
J'ai mes sources.
Vrai. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est agréable quand on dessine chez soi, quand on travaille chez soi, c'est que le matin, on se met à son boulot, puis dehors, ça grouille. Enfin, les gens, ça... Et donc, on a l'impression d'être dans une bulle.
Ouais.
Mais là, ça n'existait plus. Et les premiers jours, ça m'a un peu angoissé. Parce que c'était le calme plat. Mais moi, il fallait que je trouve des ressources, du coup, pour me recréer une petite bulle, mais ça n'avait plus vraiment de sens. Voilà, c'était ça l'idée. Mais après, bon, c'est un peu passé, mais c'était très curieux au début.
Ok, j'ai compris. Sangoma, les damnés de Cape Town, c'est chez Glénat. Cet album, on en parle dans la suite de Pop Pop avec Charline Roux, qui va nous rejoindre juste après la nouvelle déclaration d'amour d'Angèle.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Et la pluie me manque, je fais mieux quand je te vois. Les rires
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, vient d'arriver ma Corentine Roux à moi.
Ah ouais.
Charline Rouge.
Bonjour.
Bonjour, Charline. Je vous présente Caril Ferret et Corentin Roux, venus nous présenter leur BD Sangoma, les damnés de Cape Town. Charline, direction donc l'Afrique du Sud.
Et c'est une vingtaine d'années après l'apartheid, les inégalités sont toujours bien présentes entre les propriétaires blancs et les ouvriers noirs. Dans ce climat tendu, voire nauséabond, Sam est retrouvé mort sur les terres de ses employeurs. Le lieutenant Shepard est chargé de cette enquête sous tension. Et sous tension, est-ce que c'est ainsi aussi que vous déroulez ce récit? Son écriture a-t-elle été aussi électrique que sa lecture peut l'être pour nous?
Bah, j'espère. Enfin, moi, j'aime pas tout ce qui est mou, en fait. Donc, j'essaie que de découper.
Alors, je vous rassure, ça ne l'est pas du tout. Hein,
Non, mais j'aime pas ouvrir des portes, fermer des portes. Enfin, c'est un peu comme au cinéma. Moi, j'aime bien que le rythme, il soit. Chaque scène, c'est un bout de la scène. On imagine un peu ce qu'il y a avant et après, et on essaie de garder la dynamique. Et le dessin de Corentin, je trouve, s'y prête beaucoup parce que c'est un metteur en scène formidable.
Ouais.
Et c'est lui qui donne aussi les points de vue cinématographiques. Moi, j'ai fait que écrire, en fait, et j'ai pas du tout, parce que certains scénaristes parfois découpent eux-mêmes, disent tu vas faire un gros plan sur machin, un gros plan sur bidule. Moi, rien, et ça m'a fait des vacances. et du coup, c'est Corentin qui s'est un peu tout tapé.
Des vacances agitées quand même. Parce que Sangoma est un polar pur jus, un meurtre à implication sordide à résoudre, avec pour toile de fond une problématique des plus douloureuses, la redistribution des terres raptées pendant l'apartheid. De fait, les violences sont multiples dans cette histoire, on va pas le cacher non plus. Et au milieu de tout ça, un enquêteur séducto-loser, à la fois flamboyant et un poil trop détendu, un esthète du désastre, dites-vous, Caril Ferret. Comment est-ce que vous avez conçu ce Shepard qui sert en même temps de guide aussi au lecteur?
Ben, on a discuté, on a vraiment travaillé ensemble avec Corentin, parce que certes j'ai fait l'histoire, enfin c'est lui qui l'avait
dessiné d'ailleurs, oui.
Alors moi je dessine très très mal, mais c'est rien de le dire. Mais Corentin déjà avait envie de faire un truc en Afrique du Sud, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais moi je me suis un peu mis à son service, parce que je lui dis quand même, mais qu'est-ce que t'as envie de dessiner aussi, quoi. J'ai pas envie d'imposer moi mon point de vue sur ton ton dessin. Il a suffisamment de talent.
Mais alors physiquement vous l'avez trouvé comment, Shepard, Corentin?
J'ai eu beaucoup de mal à le trouver.
Ouais. En se regardant dans la glace.
Il y a un petit peu. Bah, c'est ça, j'arrivais pas à le trouver.
Ouais.
Et c'est le dernier personnage que j'ai trouvé graphiquement. Et j'ai même refait des pages après avoir commencé son entrée en scène.
Mm-hmm.
Et puis, à un moment donné, c'est avec l'éditeur aussi, il m'a dit, mais prends ta tête.
Attends, raccourcis un peu le nez.
Oui, on s'idéalise. Hein.
Et du coup, l'appellation esthète du désastre,
pas moi de le dire, mais j'espère pas.
Caril Ferret, 13 ans après votre roman Zoulou, Caril Ferret, vous retournez donc en Afrique du Sud, Caril Ferret. Pourquoi est-ce que je dis Caril Ferret tous les trois mots? C'est peut-être parce que Caril Ferret est un de nos deux invités aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu 13 ans avant de revenir à l'Afrique du Sud?
Bah, il y avait eu le film entre-temps, comme le film de Jérôme Salles, qui m'a fait revenir en fait en Afrique du Sud.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que quand Corentin m'a dit que lui, ça l'intéressait de faire un truc en Afrique du Sud, j'ai dit bah, c'est l'occasion d'y revenir, en fait. Mm-hmm. Mais je vais pas retourner physiquement pour la BD, à la différence de Corentin.
Oui, parce que Corentin, vous dites que Zoulou, c'est un roman dont la lecture vous a durablement marqué, au point justement d'avoir rêvé, hein, si je n'exagère pas, cette collaboration avec Caril Ferret. Comment s'est passée l'entreprise de séduction?
Ça fait rire
Caril Ferret.
Non, mais c'est vrai, quand j'avais lu le roman, je le voyais en bande dessinée, et puis bon, sans avoir non plus l'envie de l'adapter. Donc avec mon éditeur, j'ai parlé de Caril et puis lui a envoyé Rio, la série précédente que j'avais fait, qui lui a beaucoup plu. Et puis il a tout de suite accepté qu'on se voit.
Parenthèse, dont l'intégrale sort aussi mercredi. Hein.
Exactement. Ouais. Les quatre albums en un. Ouais. Et donc, 5 minutes, on s'est tout de suite entendu. Et puis quand j'ai parlé de l'Afrique, il a eu tout de suite l'idée, en 5 minutes, sur la répartition des terres.
Mm-hmm.
Et les questions politiques du moment qui continuent, mais qui avaient à ce moment-là.
Caril Ferret, j'ai une question sérieuse pour vous. Vos romans se situent dans des pays au passé douloureux, la Nouvelle-Zélande pour Aka et Hutu, l'Afrique du Sud pour Zulu, l'Argentine pour Mapuche, le Chili pour Condor et la Colombie pour Paz, comme si ces histoires criminelles lourdes ne pouvaient se dérouler que sous d'autres cieux. C'est parce que vous êtes un grand voyageur dans l'âme ou parce que la France est bien trop paisible pour vous?
Non, la France n'est pas paisible, mais je suis un peu trop près de l'actualité. J'ai pas envie de parler de Zemmour, par exemple. Attends, j'ai pas envie d'en parler, donc j'en parle
pas.
Je
vais le faire.
Voilà. Mais je préfère explorer d'autres. Parce qu'en fait, on est tous reliés les uns aux autres sur Terre, même si ça paraît pas évident. Et en fait, on se rend beaucoup plus compte quand on est à l'étranger. Et les problématiques historiques, moi, bon, m'intéressent. Pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et quand on est outsider, en fait, quand on est sur un autre pays, alors l'appropriation culturelle va nous dire aujourd'hui « Ah, vous n'avez pas le droit d'aller en Afrique du Sud, je ne sais pas si vous n'êtes pas sud-africain, etc. » Alors là, moi, je suis absolument contre ce genre de choses, parce que je pense qu'on a tous un cœur et on pleure tous de la même manière, pas forcément pour les mêmes raisons. Enfin, moi, je suis assez universaliste, et le fait d'être outsider, on peut parler sans tabou des problèmes d'une société, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est insider.
Oui, mais alors pardon d'insister, mais un polar social hexagonal signé Caryl Ferret, sur le papier, ça ne semble pas aberrant.
Non, mais j'aime bien voyager quand même. Quoi. Ouais, là, je reviens de Namibie, je préfère passer un mois en Namibie que Nocleus Out. En plus, c'est même pas en France.
Bah non. En Belgique, vous êtes contre les Belges.
Mais j'adore les Belges.
Bah oui, je sais que vous adorez les Belges. Bon, et vous, Corentin, qui êtes plus habitué à l'Amérique du Sud avec Juarez et Rio, dont l'intégrale, je le répète, sort aussi mercredi, la toile de fond sud-africaine a été visuellement stimulante pour vous?
Ah oui, oui. Pendant le voyage ou quand j'ai été là-bas, donc j'y suis parti avec tout le scénario sous le bras de Caryl, et puis ça a été le choc de voir l'immensité du Cap, de l'étendue de la ville, les montagnes qui s'entremêlent après les zones avec les townships, et puis c'était extraordinaire, magnifique. Oui, puis comme c'est vraiment la pointe de l'Afrique du Sud, balayé par le vent, donc c'est une lumière très métallique, contrairement à l'image qu'on peut avoir des récits africains où c'est toujours un peu balayé par le sable, un peu jauni. Là, c'est dans l'album, j'ai essayé de rendre ça, cette lumière bleue, cette chaleur bleue, en fait. C'était vraiment très. Fallait y aller pour le voir.
Et pendant ce voyage, vous avez pris des tonnes de photos. Est-ce que la composition de ces photos a déjà déterminé certaines planches? Je pense notamment à la double page de représentation des vignobles vus de haut, la ferme, Combs Bay. Vous parliez de l'aspect extrêmement cinématographique du travail de Corentin. Là, c'est assez frappant. Est-ce qu'il aurait été seulement possible de fantasmer ces endroits?
Non. Alors on peut toujours imaginer de reconstituer avec Internet. Maintenant, il y a beaucoup de sources possibles, mais la grande force, c'est que quand on met en scène ou qu'on dessine quelque chose, on a en tête ce qu'il y a autour, derrière et sur les côtés, ce qu'on voit pas. Et non, c'était vraiment nécessaire. Surtout les fermes, c'était ce qui m'importait le plus à voir là-bas.
Caryl Ferret, premier pas dans la BD, alors que Zulu, on le rappelait à l'instant, a été adapté au cinéma. Comment adapte-t-on sa narration, et surtout comment délecte-t-on tout le côté visuel à un dessinateur devient un réalisateur, comme vous le disiez.
Oui, mais en fait, moi j'écris mes scénarios de films exactement de la même manière, je m'en suis rendu compte exactement de la même manière que la BD. C'est-à-dire que, et moi j'aime bien l'idée d'être une petite main, en tout cas une première étape d'un travail, c'est comme un scénario de pour le cinéma, en fait, et après le réalisateur ou le dessinateur s'en empare, et lui, il donne sa vision à lui, mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est vraiment, je ne fais partie que d'un processus de travail.
Dessinateur, et pas n'importe quel dessinateur, Corentin Rouge, qui se situe dans la droite lignée des grands dessinateurs réalistes, les Book, les Herman, les Giraud. C'était immédiatement le partenaire idéal pour cette histoire.
J'ai vu, mais rien que la couverture de Rio, j'ai dit « Ah oui, alors ça m'intéresse tout de suite ». J'ai ouvert, j'ai dit « Ah oui ». Enfin, ma réponse, elle a été en quelques secondes.
Ensuite, vous avez rencontré l'individu, donc vous avez vu Rouge, si je puis dire.
Voilà, lui, il regrette un peu depuis. Au début, il rêvait peut-être avec moi, puis là, il souffre depuis un certain temps quand même.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, parce que Corentin dit avoir été sidéré par la vitesse avec laquelle vous écrivez, car il ferait au point de vous soupçonner d'entrer en transe et de laisser votre main écrire toute seule. Sorcellerie?
Non, le rock. L'urgence de vivre, en fait. On n'est pas là pour gna.
On n'est pas là pour
en littérature, des fois, en littérature,
faux.
La patate chaude, là, dans la bouche.
Oui, d'accord, je vois très bien. Corentin, j'ouvre une parenthèse. Caryl s'appelle Caryl, donc en hommage à un condamné à mort, un Américain des années 50. Exécuté en 1960. Vous, j'imagine que c'est en hommage au Corentin de Paul Cuvelier.
Exactement.
Une BD des années 50 aussi, mettant en scène le dit Corentin, un adolescent courageux et serviable. Vous êtes vous-même un adolescent courageux et serviable?
Tout à fait. Oui, oui, non, c'est mon père qui est dessinateur
de
bande dessinée.
Dessinateur aussi.
Qui était fan de Paul Cuvelier, mm-hmm. qui m'a donné son prénom. Et d'ailleurs, j'avais ses albums, gamin, je les regardais, et puis je trouvais que je lui ressemblais, mm-hmm. finalement. Je suis conformé au personnage.
Vous ressemblez à Corentin, vous ressemblez à votre héros, là.
Ouais,
vous avez mis le chat, hein. Vous auriez pu vous appeler Tintin aussi.
Non, j'ai pas la poupette.
Corentin. Bon, d'accord, allez, Sangoma, les damnés de Cape Town, c'est signé Caryl Ferret et Corentin Rouge, c'est à retrouver mercredi chez Glénat, et c'est un album absolument explosif. Et j'en profite pour rappeler que le même jour sortira l'intégrale de Rio, votre BD Corentin signé avec Louis Garcia. Les Garcia sont décidément partout, toujours chez Glénat. Pop break dans cette émission de Pop Pop Pop, il est 16h32 et c'est l'heure des Pop News.
Des postiches, des vêtements chatoyants, des choucroutes pour les dames et surtout de l'accent italien très peu appuyé. Mais comme tout ceci nous est proposé par Ridley Scott, hein, décidément très inspiré ce jeune homme après le dernier duel, on dit oui et ça donne House of Gucci d'après l'histoire vraie de l'empire familial derrière la célèbre marque de luxe italienne. Au menu, trahison, vengeance, meurtre avec Adam Driver, Al Pacino et dans le rôle de Patrizia Reggiani, celle qui va commanditer le meurtre de son mari Maurizio Gucci, Lady Gaga.
Gucci, it was a name that sounded so sweet. So seductive.
Come, meet the family.
Everybody, this is Patrizia.
And this is my family.
Kick this tape out!
They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that?
Et House of Gucci, ce sera le 24 novembre dans les salles.
Quand on aime, on ne compte plus, ou alors on arrondit. Voici l'éternel retour de Neil Young et Crazy Horse pour un 41e album enregistré en juin dernier dans les montagnes rocheuses, un album qui sonne comme ce titre, Heading West. Eh bien, moi, je serai au rendez-vous. Heading West, c'est à retrouver sur l'album de Neil Young et Crazy Horse intitulé Barn et qui sortira le 10 décembre.
J-7 avant le retour aux États-Unis du tueur en et de série, pour qui on s'est étrangement pris d'empathie, Dexter Morgan, qui a refait sa vie sous alias et loin de Miami. Tout semble relativement paisible et sous contrôle, sauf qu'évidemment, le Dark Passenger de Dexter menace de se réveiller.
Dexter Morgan? It's me. Your son.
Harrison.
Dexter New Blood démarre le 7 novembre sur la chaîne américaine Showtime. On peut donc espérer une arrivée imminente sur Canal+, qui par ailleurs, histoire de pouvoir réviser Taches de sang et autres meurtres propres, a mis en ligne les 8 saisons précédentes.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Si, c'est moi.
C'est Lady Gaga, bien sûr.
Patrizia Reggiani, bien sûr.
Vous avez fait la même école pour l'accent. Hein, je pense qu'il y a vraiment une communauté.
Caryl Ferret, Corentin Rouge, parlons pop, parlons bien. C'est l'heure de votre pop list. Que lisez-vous, que regardez-vous, qu'écoutez-vous, qu'attendez-vous dans la pop culture en ce moment? Vous allez nous le dire tout de suite. Alors, Compromat, c'est le film que vous avez écrit avec Jérôme Salle, mon cher Caryl, et c'est le film que vous attendez. Charline en est même plusieurs à l'attendre, vu qu'il n'est pas sorti.
Voici donc les infos dont je dispose. L'évasion spectaculaire d'un diplomate français de Sibérie, victime d'une machination orchestrée par le FSB. L'intellectuel va devoir se transformer en homme d'action pour échapper à son destin. Starring Gilles Lellouche.
Bande annonce. Ah ben non, il n'y a pas encore de bande-annonce, je suis bête. Non. Un film que nous découvrirons au printemps. Et vous l'avez vu avant nous quand même, Caryl.
Je l'ai vu dernièrement en fait. Et comme c'était la première fois. Et en fait, on a tout monté. Enfin, surtout, il y a une histoire d'amour en fait qu'on a évidemment inventée. Et pour moi, c'était ça qui faisait l'émotion. Et est-ce que ça marche ou ça marche pas? Et il y a la formidable Jonah Kellogg qui jouait dans Cold War en fait. Elle éclaire la lumière comme Marilyn. Et elle est formidable. Et l'histoire, enfin moi en tout cas, m'a touché. Enfin, j'ai trouvé que ça a marché, en fait. Donc, pour moi, le film, il marche parce que cette histoire d'amour fonctionne.
Compromat, le nouveau Jérôme Salle qui arrive donc au printemps et qu'on attend impatiemment et de pied ferme. Le livre que vous lisez en ce moment, Corentin Rouge, c'est Les Ritals,
ouais,
de François Cavanna.
Ouais.
Charline, Les Ritals, c'est comme ça qu'on appelait les Italiens quand Cavanna et Coluche étaient petits, et Cavanna, ça lui plaisait pas trop.
Et pour être tout à fait précise, on parle des natifs d'au-delà des Alpes, venus travailler en banlieue Est, en l'occurrence à Nogent-sur-Marne, récit de la folle et drôle jeunesse de Cavanna entre 6 et 16 ans.
Ma perché questo libro?
Pourquoi je lis...
Lady Gaga?
Oui. Encore. Ben je l'ai eu dans les mains là, et puis ça m'a fait voyager, ça m'a transporté un peu dans ces années 30. Ça m'a, en fait, ça m'a rappelé les histoires que me racontait mon grand-père, qui lui était exactement la même période, mais de l'immigration espagnole,
ouais,
et qui est arrivé à Paris au même moment que Cavanna. Donc ça me rappelle les histoires.
Garcia, c'est d'origine espagnole.
Non, Garcia, c'est le nom de ma femme, qui est scénariste, qui a scénarisé Rio.
Ouais.
Mais là, c'est du côté de ma mère, donc c'est un autre côté.
Mais Garcia, mais c'est donc espagnol. Mais tout, c'est clair. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit précédemment, Caryl Ferret ne regarde pas de série. Intéressons-nous donc à la série du moment de Corentin Rouge. Et cette série, c'est The Last Dance. Charline, cette dernière danse est un peu sportive, hein, si je ne m'abuse.
Et vous ne vous abusez point, puisque cette série documentaire s'attache à la saison 1997-1998 des Chicago Bulls et dresse un portrait inédit de leur géant, un certain Michael Jordan.
As hundreds of thousands of fans cheered the Bulls, the drama of what will happen to this great dynasty was apparent to all.
This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. At the conclusion of the year, we'll look towards the future.
After the fifth championship, we realized, other than Michael, the rest of the guys were probably at the end of their high productive years. And we realized maybe this was the time to do a rebuild and not try to win a sixth championship.
Alors, c'est The Last Dance, la série que nous recommande Corentin Rouge. Attention, Corentin, je vais vous mettre un défi entre les mains, un, ouais, challenge même. Essayez de donner envie à Caryl de regarder cette série. Sachant qu'il n'a pas de poste, peut-être pas de tablette, je ne sais pas. Non, mais il n'a rien de tout ça.
Et Caryl,
qu'il ne regarde pas de série.
Caryl était un grand sportif.
Mm-hmm.
Il m'a raconté ses exploits au rugby. Sport intense.
Pas au basket. Hein.
Pas au basket. Mais donc voilà, c'est un... peut-être que ça peut l'intéresser.
Vous étiez à quel poste au rugby, Karine?
Moi, j'étais arrière, parce qu'en fait, souvent, on se trompait sur ma taille, en fait. Et donc, les gros arrivaient devant moi. Et puis, plutôt que de m'éviter, ils allaient rentrer dedans pour, ils voulaient m'écraser. Mais en fait, paf, tu dois faire un bon plaquage dans les roustons, là. Et puis après, ça change.
Le geste technique est pas très bon, hein. Je crois que le plaquage, c'est pas là que ça se... Enfin, si je peux me permettre.
Non,
hein.
Mais c'est les cuisseaux. Et comme je suis pas très grand, moi, je vais directement...
Donc, ça vous donne envie, peut-être, de regarder la série autour de Michael Jordan?
Oui, parce qu'en fait, au-delà du sport, souvent, c'est sportifs de très haut niveau. En fait, ils sont sur des fils du rasoir, en fait. Ouais. Et c'est toujours intéressant, anthropologiquement.
Donc, vous la recommandez vraiment?
Ah oui, c'est l'écriture du documentaire en soi, le montage, toutes les images d'archives qu'ils ont été puisées. Et puis moi, ça me rappelait le rêve de cette époque-là quand j'étais gamin et que je jouais au basket. Et surtout, j'ai compris tout le contexte, enfin tous les enjeux de cette époque. C'est une super série.
Vous jouiez au basket?
Je jouais.
Vous n'étiez pas là à foncer dans les roustons de... Des gens, oui, en général. Caryl Ferret, vous vous rattrapez bien avec la musique que vous écoutez en ce moment, car il s'agit d'un des morceaux de l'album Fantôme de David Bowie, Toy, initialement prévu en 2001, mais qui n'est jamais sorti. Des titres de cet album absolument inédit, Bowie bien sûr, mais pourquoi celui-là?
En fait, c'est pas vraiment celui-là. En fait, c'est Black Star. En fait, il y a un quatre titres qui est sorti,
ouais,
dont trois inédits.
Ouais.
Donc c'est pas ce vieil album, c'est sur le dernier.
Ah, en fait. D'accord.
Peut-être, j'ai pas été assez précis.
On s'est gouré, non, c'est nous. Non. Généralement, c'est toujours nous qui comprenons mal.
Ces chansons, elles sont formidables. Elles auraient vraiment mérité d'être dans l'album Black Star.
Ah oui, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'album Toy, qui lui est inédit, mais est quand même sorti 20 ans après.
Ouais, mais je le connais pas celui-là, en fait. Et puis c'est un peu les mêmes. Parce que moi, je suis né le jour de la sortie du premier album de Bowie, 1er juin 67.
Ouais.
Et c'était quand même pas un très bon album, Donc en fait, d'après mes échos, c'était un peu des reçus, enfin pas des reçus, c'est de ça, mais c'est un peu cette période, ces tout premiers morceaux qui valent pas grand-chose.
Oui. Donc vous, ce que vous écoutez en ce moment, c'est des trois morceaux inédits de Black Star, du dernier album en date de Bowie, mais moi j'étais en train de vous parler de Toy, cet album enregistré en 2001. Pourquoi vous regardez
non, comme
ça,
2001,
Charlie
qui devait sortir en 2001.
Il devait sortir en 2001, oui.
C'était la suite, de, mais pour des histoires de maisons de disques, il n'est pas sorti. Oui.
Bon, d'accord, ok. Allez, ma pop prescription du moment à moi, c'est Edge Burns. Avant de vous le présenter, je propose de l'écouter ici avec le doyen pour sa reprise de Hey, that's no way to say goodbye de Leonard Cohen.
Amant, tes petits joues en baiser de velours aux cheveux éparpillés autour de nous en tourbillon d'amour. Je sais, on n'a rien inventé d'autre avant, se sont aimés en pleine lumière ou cachés, se sont souris comme on le fait. Ne parlons plus de cette histoire d'amour. Enchaînez-moi, je pars. Pardonne-moi cet au revoir. Hey, that's no way to say goodbye. Je n'en cherche pas une autre alors que j'erre comme un apôtre en quête d'un coin qui soit nôtre où nous vivrons pour l'autre.
Comme ton amour m'accompagne, le mien est près de toi, ma femme. Et voilà que mes idées changent, ma tête est pleine de mélanges.
Et maintenant on se sépare et chacun écrit son histoire.
Pardonne-moi cet au revoir.
Hey, that's no way to say goodbye. Autour de nous, en tourbillon d'amour. Je sais, on n'a rien inventé d'autre avant, se sont aimés en pleine lumière ou cachés, se sont souris comme on le fait. Ne parlons plus de cette histoire d'amour. Enchaînez-moi, je pars. Pardonne-moi cet au revoir.
Burns et Lou Doyon dans Pop 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 sur France Inter, c'était Goodbye, ou plutôt pour être précis, Hey, that's no way to say goodbye, une chanson de Leonard Cohen, une des chansons reprises par Edge Burns sur cet album consacré aux chansons de Leonard Cohen, enfin la première décennie, et qui a pour titre Burns on the Wire. Ah oui, référence directe à Bird on the Wire. Vous vouliez revisiter 12 titres du génial poète canadien, disons les choses simplement, mon cher Edge Burns.
Ouais.
Pourquoi lui en particulier?
Parce que mes autres héros sont encore en vie et je voulais pas leur porter malchance.
Ouais. Donc, les autres héros étant Dylan Springsteen, si
évidemment, Neil Young dont on parlait avant aussi.
Et Neil Young, ouais, d'accord. Bah oui, consacrons-nous à ceux qui ont disparu.
Exactement.
Bird on the Wire, un titre sur lequel on entend d'ailleurs Cohen déclamer comme un oiseau sur le fil, comme un ivrogne dans une chorale de minuit. J'ai essayé à ma façon d'être libre. Ça fait un bon mantra, non? Je ne reviens pas sur vos prestations éthyliques avec des bulles, messieurs, mais ça fait un bon mantra même pour un musicien.
Tout à fait, absolument. Et puis en plus, je crois qu'il a écrit ça sur l'île de Hydra, donc voilà.
Alors nous venons d'écouter votre reprise, H. Burns, de Hey, That's No Way to Say Goodbye, mais dans la version originale, je n'avais aucun souvenir de l'avoir entendu en français. Ça veut dire que ma mémoire me joue des tours ?
Non, ça veut dire que ça a été une version dans les années 60 de Georges Chelon qui a été reprise en français comme ça. Et on s'est réapproprié son texte, enfin, on a réutilisé son texte.
Ouais.
Et d'ailleurs, la version est assez cool, elle était bien. C'était une belle surprise quand j'ai fait mon travail d'archiviste pour aller plonger dans tout ce qui avait été fait sur Cohen en français. On connaît plus Graham Allwright, mais on connaissait moins Georges Chelon, mais c'était assez réussi. Ouais.
Mais alors justement, H. Burns, comment on fait pour choisir 12 titres dans un répertoire aussi vaste ? Choix de cœur ou choix de raison ?
Plutôt choix de cœur. La raison l'emporte généralement assez peu dans mes choix. Du moins, je l'espère. En tout cas, il y avait un vrai choix de rester sur la période folk de Cohen. Ça, c'était un. Parce que je voulais pas me livrer un exercice de style. Déjà que c'est un exercice de style en soi. Après, le truc de l'anthologie où tu revisites toute la carrière et c'est pour moi, c'était un peu mettre plusieurs panoplies et là, je perdais mon truc d'origine, c'est-à-dire c'est un des auteurs, compositeurs, interprètes qui m'a donné envie de faire de la musique dans la vie et j'ai fait mes armes sur ses chansons à la guitare acoustique. Donc restons sur la période folk qui me raconte un truc particulier et qui, je crois, dans une espèce de moments d'envie de transmission de l'œuvre de Cohen, c'est de celle dont on a envie de s'emparer. En tout cas, c'est celle dont j'avais envie de m'emparer, moi.
Pourquoi est-ce que ça vous a touché tellement que ça, Leonard Cohen, la première fois que vous l'avez écouté ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, c'est la transmission de... Enfin, ces chansons, pour moi, il y a toute une histoire de transmission, quoi. C'est donc mes parents qui m'ont fait écouter Cohen. Après, je pense que beaucoup de gens ont une histoire avec Cohen. En fait, tous les gens qu'on voit en concert viennent, t'as parfois des grands-parents avec leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent. Il y a un vrai truc comme ça. Je crois qu'on trouve chez lui en particulier, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est à part.
Parce que, Caril, vous, à l'époque, vous n'écoutiez que, je sais pas, Damned, les pistoles.
Ah ouais, c'était folk, c'était mort. Il fallait casser la guitare, quoi.
Voilà. C'était pas assez énervé pour lui.
Cet hommage à l'idole, c'est aussi un effort collectif avec les cordes et les voix du Stranger Quartet, des invités comme Pomme, Lou Doyon qu'on vient d'entendre, Kevin Morby, Bertrand Belin. Comment est-ce que vous avez constitué ce Leonard Cohen Club ?
Eh ben ouais, ça c'était là une partie fun du projet, parce que toujours dans cette idée que Cohen parle à beaucoup de gens et cette idée de transmettre, je me suis dit tiens, il faut s'adresser à des gens qui ont une histoire différente, enfin des cultures très différentes, tout ce dont on vient de parler. Ils ont pas forcément le même public, pas forcément le même parcours, mais ils ont tous un truc avec Cohen. Pomme passe pas mal de temps au Canada, donc elle joue de la folk. Cohen, ça lui a parlé. Belin, je savais que ça lui parlait aussi, évidemment. On se connaissait déjà un petit peu. Et puis, par exemple, Lou Doyon, je savais qu'elle avait fait un truc avec Adam Cohen. Donc, je me suis dit, tiens.
Le fils de Leonard.
Voilà, le fils de Leonard, ouais.
Qui a écouté l'album.
Qui a écouté et validé l'album.
Et validé.
Ouais, ça, c'était un vrai plaisir d'avoir son petit retour là-dessus. C'était pas parti gagné au début.
Alors, H. Burns, ça sonne assez Midwest, mais en réalité, vous êtes né dans la Drôme, de même que Caril, ça sonne très américain, et en plus, à condamné à mort, en 1960, alors qu'il est normand, ce garçon. Cette musique de Leonard Cohen qui a eu un tel impact auprès de vous, vous disiez que c'était une histoire de transmission, que votre père, par exemple, vous parlait de Suzanne au coin du feu, reconstitution. Suzanne takes you down to a place longer ago. You can hear the sweet weather. You can smell the night beside. Voilà, c'est comme ça que je me l'imagine.
C'est à peu près ça.
Un feu, un rocking chair qui grince un peu.
On y est totalement.
Suzanne. Ça veut dire que sans ce rocking chair, sans ce petit feu, sans les 12 chansons de Cohen, il n'y aurait pas cet album de reprise aujourd'hui ?
Ouais, certainement. Ouais, c'était, pour moi, c'est un. Puis il y a un moment aussi dans ma carrière, je me dis que j'ai fait déjà 7 ou 8 albums. Mmh. Et puis il y a un moment, se plonger dans la tête de quelqu'un d'autre et essayer modestement de me réapproprier l'œuvre d'un poète comme Cohen. Ça fait du bien, en fait, ça fait du bien au cerveau. On reprend ses chansons à lui, on se plonge dans sa tête. J'ai essayé de tout lire ce qu'il y avait sur lui. Il y a une super bio de Sylvie Simmons qui est brillante. Et voilà, c'est aussi un moment où même, enfin moi, c'est une inspiration nouvelle que d'essayer de faire ça.
Vous parlez de s'y atteler modestement. Est-ce qu'il y a eu un moment où le projet a peut-être été tétanisant ? Ça peut arriver quand on reprend ses idoles.
Ouais, bien sûr, c'est dès le début. Puis en plus, il y a un truc où la critique musicale est très... s'il le reprend tel quel, il est très sage. Ben, et voilà. Puis s'il ose changer, mais pour qui se prend celui-là, il y a un peu ça. Donc, mais en fait, assez rapidement, à partir du moment où on s'est mis à jouer les chansons et à les jouer, il n'y avait plus ça du tout, quoi. Parce qu'il y a un espèce de truc hyper spirituel dans ces chansons. Donc quand on les joue... On est bien loin de se soucier de ce que de oh là là, il faut pas que je m'autocensure parce que je m'attaque à une légende. On les joue, on prend plaisir à les jouer et après ça prend le dessus assez facilement.
Caril, je sais que vous préférez la musique électrique à la musique acoustique, ça s'est entendu, mais le Leonard Cohen poète qui a vraiment marqué une génération d'écrivains.
Ah bah ouais, non, mais complètement. Quand j'étais jeune, j'étais un peu abruti, c'est normal. Mais j'ai ouvert le prisme comme la musique, quoi. Et puis même Dylan, bon, malheureusement je connais pas tous ses textes, mais dès que j'ai une traduction, c'est magnifique. C'est plus que magnifique, c'est magnifique, c'est politique, ça va bien au-delà de sa voix nasillarde.
Alors, mon cher H. Burns, je sais que dans votre panthéon personnel, on trouve également Dylan et Springsteen,
qui
vous citait tout à l'heure.
Qui ça?
Bruce Springsteen. Ce qui prouve que vous êtes un homme de goût. Vous avez des pistes pour un nouvel album? Vous voulez vraiment pas toucher ces gens-là, ni Lyon compris, tant qu'ils sont.
Un nouvel album d'hommage, je voulais dire.
C'est
sûr que voilà, j'ai pas envie de leur porter malheur, mais Springsteen, ce serait mon deuxième sur la liste, évidemment. Dylan et Springsteen, c'est ça fait partie de mon top 3 personnel, évidemment. Donc je vais essayer de lui en parler au Stade de France au mois de juin.
Qui n'est pas confirmé.
C'est pas confirmé.
Non. Mais en fait, je pense qu'il serait très sensible.
J'ai aimé cette manière de venir chercher les infos en disant peut-être que ça va être confirmé ici.
On va peut-être pouvoir se parler. Pour l'instant, on espère. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Bon, comme promis, je vais vous laisser la scène de Pop 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 pour interpréter votre version de Chelsea Hotel avec Isée Sauvage au piano. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui, tout à fait.
Alors maintenant, il faut vous diriger vers cette scène. Attendez, je fais en sorte que la poursuite vous suive. Depuis les coulisses où nous nous trouvons actuellement, jusqu'à cette scène sans public. Hein, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de public. Voilà, cette scène extraordinaire. Voilà, il franchit les quelques marches qui l'amènent sur la scène.
Mais quel talent de narration.
La lumière baisse doucement dans notre studio. Il va être prêt et dès qu'il sera prêt, je lui ferai le pop de lancement. C'est parti.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave, so free, giving me head on the unmade bed while the limousine waited in the street. And those were the reasons that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers and songs, and it still is for those of them left. Oh, but you got away, didn't you, baby? Oh, you just turned your back on the crowd. You got away, and I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of this jiving around. Remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And then clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away. Oh, didn't you, baby? Yeah, you just turned your back on the crowd. You got away. and I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of this jarring around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin, but I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't think of you that often.
Bravo, Edge Burns, bravo. Ici, Chelsea Hotel. Ah, c'est magnifique, chanson de Leonard Cohen. Et je sais que Philippe Dion, qui nous écoute, doit être dans ses petits souliers. Philippe Dion, qui avait été le déclencheur à l'époque de ses nouvelles, Bleu comme l'enfer, c'est bien cela.
Ouais, dans les années 80, c'était hyper moderne.
Voilà, Carrie, la vocation de Carrie s'était déclenchée en lisant Dion, qui lui-même écoutait Leonard Cohen, qui aujourd'hui est repris par Edge Burns dans ce très bel album Burns and the Wire, recommandé par, évidemment, par Pop Pop Pop. Et j'en profite pour annoncer que vous êtes en tournée, mon cher Edge Burns, dans toute la France, et que les dates sont à retrouver sur le site de l'émission.
Et voilà. Avis aux fans aussi, il y a un documentaire qui va sortir sur Leonard Cohen, qui a été présenté dans différents festivals aux États-Unis et qui devrait arriver chez nous.
Et merci. Nous serons au Trianon à Paris le 13 mars.
Le 13 mars, nous y serons aussi, et Issé Sauvage, qui vous accompagnait aujourd'hui au piano, il sera aussi sans doute. Merci Caril Ferret.
Merci
Corentin Rouge. Je rappelle que Sangoma, les damnés de Cape Town, c'est à retrouver mercredi chez Glénat. Plus que 48 heures à attendre et vous allez en prendre plein les mirettes. Merci Charline.
Merci à vous.
Rouge. À demain.
Non.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Thomas Langlin, Benjamin Troncin qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Albin de la Simone vient popper en notre compagnie. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.